France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Daniel Pouli. Je suis professeur d'halieutique et de biologie marine.
Premier épisode, un gamin qui revient de loin. Bonjour Daniel Pouli.
Bonjour.
C'est un honneur pour moi et c'est une grande chance pour nos auditeurs et nos auditrices parce que vous vous dites simple professeur d'halieutique, la science de la pêche. Mais si on regarde la littérature mondiale vous concernant, on lit que vous êtes considéré comme le plus grand biologiste marin au monde, l'homme qui a fait tomber le mythe des océans inépuisables, celui qui a fait comprendre à la communauté scientifique et au monde l'ampleur de la surexploitation des océans, qui a révélé la baisse alarmante des ressources marines, qui a alerté sur les dangers encourus par les écosystèmes marins. Bon, vous enseignez, vous donnez des conférences un peu partout dans le monde. Vous êtes aussi souvent présenté comme le scientifique le plus prolifique, le plus cité, l'un des plus titrés qui soit, avec plus de 700 publications à votre actif, dont beaucoup dans les revues les plus prestigieuses, Nature et Science. 30 livres, 40 prix, dont le prix international de l'écologie Cosmos, qui a aussi récompensé des gens comme la primatologue Jane Goodall ou l'anthropologue Philippe Descola. Et je pourrais continuer, mais j'arrête là les superlatifs. Peut-être un dernier, parce que j'aime bien cette formulation trouvée dans le quotidien Libération, qui est toujours très bon, en particulier dans les titres et dans les phrases. Vous êtes l'homme qui n'annonce que des horreurs, mais qui collectionne les honneurs.
C'est bien dit.
Et avec tout ça, Daniel Pouli, vous êtes étrangement méconnu en France, hors des cercles océanographiques, et malgré peut-être la biographie que vous a consacrée David Grémillet en 2019, alors qu'en plus de tout le reste, vous êtes français par votre mère. Comment expliquez-vous ça ?
C'est assez simple. Quand j'avais entre 2 ans et 3 ans, ma mère, célibataire, donc, se promenait sur les... Enfin, avec moi, sur les bords de la Seine. Elle a rencontré une famille suisse. J'étais maladif et cette famille lui a promis de me rétablir, en quelque sorte, après 5-6 mois en Suisse. Et elle leur a fait confiance et ces gens m'ont jamais rendu à ma mère, qui n'a pas su... les forcer à le faire. Donc, j'ai vécu en Suisse, romande. Pour moi, ça n'a pas été un séjour bien agréable parce que la famille, c'était des Thénardier. Donc, j'ai assez mal vécu cette affaire. Parce qu'ils avaient perdu un enfant de mon âge. Et au début, je remplaçais cet enfant. Mais ça s'est vite transformé en domestique. Je suis devenu une espèce de domestique qui vivait à la maison. Ils m'ont fait travailler, ils m'ont loué en quelque sorte à des magasins où j'étais du service de livraison. Ils m'ont plutôt maltraité. Et je me suis créé un monde qui était différent. Je faisais tout le contraire de ce que je voyais autour de moi. Donc je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool et je lis beaucoup. Et je suis assez honnête, donc parce que la famille, il y avait les deux fils et la fille, c'était toujours en bordure de la criminalité. En fait, c'est là qu'ils étaient. Et donc, je me suis toujours défini par opposition, en quelque sorte. Et j'ai pu aller à l'école. En fait, je suis allé à l'école secondaire en falsifiant leur signature. Et quand ils ont découvert que ça coûtait rien, c'était la même chose pour eux, donc ils m'ont laissé continuer. Et donc j'étais à 2 ans du bac quand je quittais, parce que la famille s'est décomposée. Le père était mort, la mère n'allait plus que dans les bistrots voir du match de catch. La fille se prostituait, et donc il n'y avait plus grand-chose à la maison. Et j'étais un peu désemparé et il y avait une collègue, une amie à l'école qui me donnait... J'allais faire mes devoirs le soir, mais c'était plutôt pour me faire manger. Et un prêtre. C'était plutôt un pasteur protestant. À l'époque, on avait des cours à l'école et il m'a proposé d'aller en Allemagne faire une année diaconique.
Et vous êtes parti en Allemagne.
Je suis parti en Allemagne.
Donc avant que vous racontiez toute votre enfance, Daniel Poli, puisqu'on va y revenir, vous êtes né en France le 2 mai 1946, on peut dire que vous êtes un enfant de la libération, c'est joli de le dire comme ça, quand même.
Bien sûr.
Parce que votre mère était une ouvrière lorraine, blanche, je précise, parce que la couleur de la peau est importante pour vous. Elle vous
très importante.
Très importante. René, et de Winston, qui était un soldat
afro-américain.
De passage au moment de la libération. Donc vous êtes né en France et donc vous êtes parti en Suisse, puis en Allemagne, et puis vous êtes allé au Canada.
Oui.
C'est pourquoi vous êtes encore méconnu en France, c'est parce que vous n'avez finalement pas tellement vécu, voire pas du tout vécu en France.
J'ai vécu en France, mais ça sera plus tard.
Oui.
Donc ma mère, en effet, elle a eu un enfant avec un soldat plus ou moins de passage. Elle revenait d'Allemagne parce qu'elle a vécu 3-4 ans en Allemagne pendant la guerre, donc ça c'est un autre thème. Et bien sûr, quand elle est tombée enceinte, mon cher grand-père l'a chassée de la maison. Donc ma mère s'est mariée pendant que j'étais avec 3-4 ans, et son mari m'a reconnu. C'était un bon type, un ouvrier. Donc j'ai changé de nom, je m'appelais Clément, je suis devenu Pouli. Et je l'ai connu, j'ai fait sa connaissance...
Mais bien plus tard.
15 ans plus tard.
C'est ça, 15 ans plus tard.
Donc, en
Parce
Suisse...
Parce que quand vous aviez 3-4 ans, vous étiez dans cette famille des Thénardier Helvètes.
Exactement.
À la
Thénardier Helvètes, exactement.
C'est comme ça que vous les appelez.
Oui. En Suisse, donc, j'ai appris que le monde regardait la Suisse pour... un guide moral, parce que la Suisse, c'était extraordinaire. Mais en fait, il y avait des tas d'enfants qui étaient employés dans des fermes de paysans, d'orphelins. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert plus tard. Donc, j'étais pas le seul à avoir cette vie étrange, mais j'étais le seul, bien sûr, la seule personne de couleur dans la ville. Alors, c'était toujours un cirque quand j'allais dans les villages avoisinants. Il y avait toute une meute de gens qui rassemblaient. C'était incroyable. Mais il y a aussi un élément important dans ma vie, comme dans un conte de fées. C'est ma marraine. C'était une Suisse dont le père était horloger, comme tout le monde, d'ailleurs à La Chaux-de-Fonds, c'était la ville où j'habitais. Et elle m'a vu me balader, mal habillé, et elle m'a adopté, en quelque sorte, m'a adopté. Et une fois par mois, à peu près, j'allais dans sa famille, je prenais un bain. Je me souviens, il y avait de la crasse partout, parce qu'on me... On me frottait, on me lavait bien, et on apprenait des manières à vivre. En fait, c'était une fenêtre sur le monde normal. Et c'est ça qui m'a, je pense, qui m'a empêché de sombrer dans la misère ou la criminalité. C'est que je ne vivais pas dans ce monde, mais j'avais une fenêtre sur le monde normal de gens qui allaient au boulot, qui se lavaient régulièrement, qui mangeaient régulièrement. Et ça... Ça m'a aidé jusqu'à quand j'ai quitté la Suisse, quand j'avais 17 ans. 2 ans avant le bac.
En fait, vous avez été kidnappé par cette famille.
Oui.
Votre mère n'a rien pu faire pour vous récupérer, mais eux, les Thénardier, donc, disaient qu'elle vous avait abandonné. Vous n'avez jamais cru à cette histoire.
Non, je ne l'ai jamais cru. Et en fait, quand j'avais 10 ans, j'ai essayé de me sauver. J'avais peut-être 2 francs dans la poche et je suis allé traverser une forêt pour aller... pour aller à la frontière de la France, c'était le Doubs. C'est une rivière, bien sûr. À 10 ans, on ne peut pas traverser la rivière. Et je suis revenu, c'était ma seule épopée d'essayer de trouver ma mère. Mais je n'avais aucun moyen de la connaître. Et plus tard, elle m'a montré des lettres que les Guyot, c'est comme ça qu'il s'appelait, lui avait envoyées. Et c'était des lettres menaçantes. Elle était censée ne pas contacter la police et tout. Et il faut se faire l'idée que la classe ouvrière n'utilise pas l'État pour l'aider à faire des choses. Et plus tard, quand j'ai essayé de contacter ma mère quand j'étais en Allemagne, le service français ne m'a pas aidé du tout. C'est l'armée qui m'a trouvé.
Avant cet épisode allemand, je voudrais terminer cette partie suisse de votre enfance, Daniel Pauly, en insistant sur le refuge qu'a été la lecture pour vous, puisque vous disiez que, d'une certaine façon, ce qui vous a sauvé, c'est à la fois que vous vous êtes construit en opposition à ce que représentait cette famille, et puis la bonne fée Marguerite Rognon. La lecture était extrêmement importante pour vous, parce que c'était une évasion, d'une certaine façon. Comment y avez-vous accès aux livres dans cette famille de brocanteurs, recycleurs, je sais pas comment?
En fait, ils étaient chiffonniers. Donc, il y avait des quantités énormes de livres, de toute qualité. Il y avait des horreurs, il y avait des... Je me souviens d'un livre que j'aurais jamais dû voir. C'était Les Gueules Cassées. C'était de la Première Guerre mondiale. J'en ai encore des cauchemars. Il y avait des livres classiques de Jules Verne, des trucs. Alors, vous pouvez tout lire. Là, c'est pas les livres qui manquaient.
C'est-à-dire que le père de famille allait vider les maisons des défunts. Et il
vendait
toutes sortes d'objets, dont des caisses de livres.
Et moi, je faisais la vaisselle. Alors, c'était la vaisselle, c'était des caisses entières de vaisselle vieille, pourrie, et qu'il fallait nettoyer. Et ensuite, on les revendait, cette selle. Mais il y avait aussi des caisses de bouquins. Et donc, les livres, j'en avais à gogo.
Et la marâtre qui servait de...
Et il fallait jouer aux
mère
cartes.
De famille, disons.
Il fallait jouer aux cartes avec elle. Elle faisait toutes sortes de trucs. Elle venait de temps en temps à Paris pour des gigolos. Elle m'emmenait des fois, mais sans voir ma mère. Je revenais toujours avec des puces en Suisse, parce qu'on attrapait des puces dans le métro à l'époque, n'est-ce pas? Ça, c'est pas dans le bouquin. ça n'en plus finir. Marâtre, c'est exactement le mot.
Qui vous criait, qui vous hurlait dessus en disant Turli pour dire
Turli.
Turli pour dire Turli encore.
Turli, et puis il y a aussi le truc le plus bizarroïde, c'est difficile à traduire, c'est charogne de gamin de merde. Charogne de gamin de merde. Ah, ça.
Charogne de gamin de merde.
Voilà.
Hein, je le dis plus lentement, mais pour qu'on comprenne.
Voilà, c'était charogne de gamin de merde.
Donc à 17 ans, Daniel Pauly, effectivement, vous fuyez en Allemagne. À Wuppertal, enfin vous fuyez,
non,
partez en Allemagne.
Non, pas tout de suite. C'était, la première étape, c'était Mönchengladbach. Mmh. Il y avait un asile pour des gens dont le développement n'avait pas fonctionné. Et j'ai passé donc 6 mois à m'occuper d'un groupe de 20 jeunes garçons, des trisomiques, du genre des hydrocéphaliques, et d'autres personnes endommagées. Et j'ai appris à respecter, à aimer ce boulot. Et j'ai pu faire un boulot, évidemment. J'ai aussi perdu le peu de religion que j'avais, parce que j'étais confronté à ce que j'appelle l'homme crêpe. Peut-être, il était tout plat. Il était tout plat, il avait que le nez, qui sortait un peu de la platitude. Et il avait pas de cerveau, il avait qu'une face, qu'un visage. Il était tout plat. Il avait que, il pouvait manger et puis c'est tout. Et donc la question qui se pose, pourquoi est-ce que Dieu fait ça, n'est-ce pas? Alors à l'époque, la réponse était pour que nous on ait l'opportunité de s'occuper de lui. Seulement, ce qu'il y a, c'est que, en même temps, on dit que on ne doit pas objectifier les gens. Ils n'ont pas les utiliser pour ses propres buts. Donc, il y a une contradiction. Et cette contradiction, c'est comme un pullover en laine, qui a une maille qui se défait. Alors, on tire dessus, et puis, au bout d'un certain temps, on n'a plus de pullover parce que ça tient pas.
Après cette expérience dans l'hôpital psychiatrique...
C'était pas psychiatrique.
C'est un asile, en fait.
C'est un asile. Mmh. Après, j'ai travaillé dans un hôpital, et c'est là que j'ai fait la connaissance de jeunes qui venaient le dimanche, qui étaient volontaires, et qui allaient bientôt faire le bac. Alors je me suis demandé, pourquoi moi, je fais pas le bac? Et je me suis renseigné, puis il y avait des cours du soir. Parce qu'à l'époque, l'Allemagne avait un programme encourager la classe ouvrière à obtenir le bac. Parce qu'il était très sélectif avant. Ils appelaient ça « Envoie ton enfant plus longtemps dans des meilleures écoles, dans des écoles plus avancées. C'était un programme, il n'existe plus maintenant, et donc pour encourager les jeunes à faire un bac. C'était un cours du soir, ça durait 4 ans. On allait de 5h à 9h, tous les 5 fois par semaine, et on était, dans ma classe, on était 115 à commencer, on était 15 à finir.
Parce que c'était très dur.
Bah,
c'était très dur. Et la journée, en plus, vous travailliez comme manœuvre dans une usine de peinture industrielle.
Exactement.
Donc, il fallait renouveler des produits chimiques. C'était quand même très éprouvant, très physique.
Donc, il fallait 8 heures de boulot comme un ouvrier, comme un manœuvre dans ce cas-là. Ce qui était difficile, c'est de ne pas se poser la question, est-ce que j'y vais ce soir? Il fallait jamais se poser cette question, parce que si on pose cette question,
vous alliez plus.
On n'y va plus. Ouais. Donc il faut, comme un robot, aller sans y penser tout le temps. Alors, ça s'est bien développé, 2 ans. Ensuite, j'ai reçu une lettre de l'ambassade de France que j'étais censé aller faire mon service militaire.
Eh bien oui, en 1965, on doit faire son service militaire encore quand on est un jeune homme.
Voilà. Alors j'ai demandé, très poliment, s'il était possible. D'ailleurs, c'est le pasteur qui l'a fait, il a écrit « Est-ce que vous pouvez repousser un peu l'arrivée de ce jeune homme parce qu'il pourrait finir son bac ?» Parce qu'en France, on pouvait le faire. Alors, bien sûr, ça a été refusé. Donc, j'hésite à venir tout de suite. Donc, insoumission. Alors, quand finalement je suis arrivé, en France, c'était... Il y avait des soldats avec des mitraillettes autour de moi, comme si j'étais dangereux. Et entre-temps, ils avaient aussi contacté ma mère. Ils avaient,
à Maison Alfort.
À Maison Alfort, il y avait un panneau là qui indiquait...
Wanted, quoi, on vous recherchait.
C'est ça. Donc, elle a envoyé une lettre en Suisse, et c'est là que j'ai trouvé la lettre. Donc, voilà. Voilà, j'ai ma mère. Donc,
l'armée vous a permis de retrouver votre mère.
Voilà. Là. Alors, j'ai un laissé passer pour passer à la frontière pour pas être arrêté. Je vais à Maison Alfort et donc le cirque, toute la famille.
Il y a du monde, il y avait 7 frères et sœurs.
7 frères et sœurs. Il a fallu gérer ça. Et heureusement, ma mère est très bavarde. Alors, au cours des mois qui ont suivi, parce que j'ai pas tout de suite pu retourner en Allemagne, j'avais pas de passeport.
Entre-temps, vous êtes réformé P4, hein?
Sécurité, exactement.
Vous avez échappé au service militaire.
Inadapté. Après une semaine, de toute façon, c'est vrai. Il m'aurait détruit à l'armée. C'était horrible. Mais j'avais un accent allemand à l'époque. Donc, il me faisait pas trop confiance. Et donc, j'ai vécu presque un an à Maison Alfort. J'ai travaillé dans l'administration, dans un petit labo. J'avais une machine à calculer mécanique. Je tournais la manivelle, ça me donnait des chiffres. C'était pour calculer une autoroute qu'ils allaient construire. Enfin, donc j'étais de semi-fonctionnaire, c'est pas ça, pas fonctionnaire, mais employé dans un service de la ville. Et je me suis acheté une mobilette, je suis allé voir mon grand-père. On s'est détesté dès la première minute, et qui a voulu tout de suite me reprocher de vivre parmi les Boches. Je l'ai envoyé se faire foutre, donc ma mère était très, très contente, elle venait avec moi, elle était très satisfaite de voir quelqu'un finalement lui tenir tête. J'ai pu voir ma pauvre grand-mère, qui était mourante, et j'ai fait la connaissance de 2-3 oncles, qui vivaient près de Nancy, à Vise et ailleurs, dans l'Est. Donc, voilà la famille. Et mes petits frères et sœurs, enfin, évidemment, la première, celle qui vient juste après moi, elle n'a pas beaucoup apprécié de plus être la seigneur.
Elle n'était plus l'aînée.
Elle n'était plus l'aînée, oui. Mais les autres, bon, ont beaucoup apprécié. Et en fait, les plus jeunes, j'ai toujours été leur grand frère, pratiquement. Donc, ça s'est bien passé, on s'entend bien maintenant.
L'autre souvenir en France dans ces années-là, pour vous, Daniel Pauly, c'est qu'en 1968, vous êtes à Paris et vous participez aux événements de mai.
Oui, alors, ce qui s'est passé, donc, je suis... Après cette période d'un an, je suis retourné à l'école. C'est comme si j'avais redoublé. J'ai perdu un an, mais je suis retourné à l'école. Et l'école du soir, j'ai travaillé dans une fabrique de brosses et dans différentes fabriques. Mais quand les événements ici se sont développés en 68, j'avais une petite Volkswagen, une vieille voiture pourrie, que j'ai remplie de jerrycans avec de l'essence. Et j'avais une des rares voitures qui circulait, parce que il y avait plus de sens à Paris. Alors il y avait des ordures partout, c'était incroyable. Alors je passais de Maison Alfort, classe ouvrière, qui faisait la grève, à l'Odéon, où les étudiants se distribuaient déjà des postes de ministre. Alors, avec mes deux frères, deux de mes frères les plus âgés, je leur ai montré ce théâtre. Les deux étaient peintres, sont devenus peintres en bâtiment. Alors, ils voyaient les étudiants se distribuer des postes de ministres. Alors, il y avait tout un vocabulaire qui était utilisé pour justifier ça. Alors, et ça n'avait aucune relation avec la réalité que eux connaissaient. Je dois dire que ça, c'était une expérience incroyable. De voir les 68 tards par derrière. De voir la classe ouvrière en même temps. Et bien sûr, la classe ouvrière, il y a eu les accords de Grenelle. Elle est retournée au travail. Ils se sont retrouvés comme ça, en l'air, toute la bande. Vous voyez l'affaire. Ça, c'était rigolo. C'était d'ailleurs tout à fait justifié qu'il soit dans un théâtre. Parce que c'était du théâtre.
C'était du théâtre.
Oui.
1969, année importante pour vous.
Oui.
Année du bac. Année des retrouvailles avec votre père. Année de la découverte des États-Unis. Et de la rencontre d'une certaine Sandra.
Oui. Alors, donc, par l'intermédiaire de ma mère, j'ai appris qui était mon père. J'ai appris que les premières années de ma vie, la sœur de mon père lui avait envoyé des paquets. Des paquets des vêtements, des trucs. Et donc, elles avaient établi un rapport. Et donc, j'ai une famille aux États-Unis. En 69, quand j'ai eu mon bac, finalement, allemand, j'ai décidé de prendre un charter. À l'époque, les vols, on faisait semblant de créer un club, et c'était les membres du club qui louaient un avion. Alors, je me suis posé membre du club, et je suis arrivé aux États-Unis, où j'étais bien entendu le seul à être fouillé par les douaniers américains. C'est comme ça, je savais tout de suite où j'étais. Et j'ai fait la connaissance d'un oncle, donc du jeune frère de mon père, qui était incroyable, intéressant, il était cool, et puis je parlais mal anglais, on s'est bien entendu, puis il menait toutes sortes de combines, de trucs, il faisait c'était pas très honnête tout ce qu'il faisait, mais enfin. Et j'ai fait la connaissance de mon cousin, une sorte de génie mathématique qui avait obtenu un prix du président des États-Unis. On le voit d'ailleurs, une photo, il se serre la main. Il était étudiant à Cornell. Alors, il y avait le Ku Klux Klan qui a brûlé une croix à Cornell pour faire peur aux gens. Et donc, lui et ses copains, il a pris Cornell en otage, toute l'université de Cornell. Il était partout dans Paris Match, dans Time, dans Newsweek. Et c'était mon cousin. Alors, j'étais arrivé aux États-Unis avec un ami, un Allemand, qui a grandi en Afrique. Alors, c'est bizarre parce que moi, je suis noir, je suis européen. Et lui, il est blanc, il ressemble à Steve McQueen. Et lui, c'est l'Africain. Et alors, on se retrouve donc aux États-Unis avec un billet qui nous a coûté 99 dollars pour 99 jours. Donc, on peut traverser tous les États-Unis en bus.
Ça a été un road trip, ce séjour dans l'Amérique années 60. Après avoir retrouvé votre père, vous avez aussi découvert que votre père venait d'une famille de l'Arkansas, où le racisme était extrêmement fort, où le Ku Klux Klan agissait beaucoup. Donc, c'est un séjour qui vous a marqué, Daniel Pauly, par la force politique qu'il représentait.
Exactement. Alors, il y a toutes sortes d'aspects bizarres. Donc, j'ai fait la connaissance de mon père, qui buvait à l'époque beaucoup trop pour qu'on puisse établir une relation. j'ai fait la connaissance de son ami, qui venait aussi de l'Arkansas, et dont, qui avait trois filles, et dont j'ai épousé une des filles. Alors, vu que j'étais avec un ami, et que, donc, on est en couple, noir et en blond, alors, il n'y a pas de jeunes gens qui ont des amitiés comme ça aux États-Unis. Il n'y avait pas à l'époque. Donc, on est gay. Et forcément, c'est ça. Donc, on est abordé par toutes sortes de gens qui voudraient participer. Et ça, et, évidemment, fallait aussi faire comprendre aux gens que non, nous ne sommes pas gays.
vous racontez cet épisode, cette aventure, même peut-être cette jeunesse avec beaucoup de sourires dans la voix. Moi, j'aimerais vous demander, pour terminer cet épisode, Daniel Poli, comment vous regardez ces débuts pour vous dans la vie? Est-ce que ça vous permet de comprendre que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu?
Maintenant, j'arrive mieux à comprendre pourquoi je suis devenu ce que je suis devenu. Entre autres, cette opposition dont j'ai parlé m'a permis d'éviter les dangers de l'époque, à savoir la petite criminalité et la drogue. Et ça a commencé, la drogue. Et en Allemagne, par exemple, les gens croyaient que j'étais américain, parce qu'il y avait beaucoup de troupes américaines au sud de l'Allemagne. Il y avait beaucoup de drogue associée à ça. Et moi, je touche pas à jamais touché à ça. Je dois dire que je pense que c'est ça qui m'a sauvé, pour ainsi dire, parce que ça m'a évité certaines associations qui mènent à rien ou qui mènent à la misère.
Je peux vous poser une question qui va paraître vraiment de la psychologie de bas étage, de commerce. À un moment, dans la biographie que vous a consacrée David Grémillet, vous dites que quand vous avez 7-8 ans, vous êtes donc devenu le domestique de cette famille de Thénardier Helvète, et vous dites que vous étiez considéré comme une ressource. Et ben pour quelqu'un qui, toute sa vie ensuite, a travaillé à sauver les ressources marines, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là.
Moi, je considère le travail vraiment comme Marx le décrit comme la meilleure façon, la seule façon vraiment d'avoir un rapport avec le monde dans lequel on existe, le travail. Et je trouve ça tout à fait normal. Plus tard, on parlera de mes relations, disons, internationales. Et j'aime bien la Chine, entre autres parce qu'ils acceptent, les Chinois, que c'est par le travail qu'on se
réalise.
Qu'on se réalise, et non pas par le talent.
En tout cas, Daniel Poli, de retour en Allemagne, vous militez chez les étudiants marxistes, vous choisissez d'étudier l'agronomie pour être utile au tiers-monde, vous passez, comme vous le dites vous-même, de gamin à problème à intellectuel. C'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant, l'épisode 2. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et à demain. À suivre l'épisode 2, premières expériences politiques et marines. C'était À Voix Nue avec Daniel Poli, réalisation Véronique Samouilov, prise de son Yvan Charby, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.